l'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs les malades.
Nous retrouvons Alain de Flaujac pour l'Ordre de Malte et aujourd'hui vous allez revenir sur quelques étapes importantes de l'histoire de cet ordre.
Eh bien bonsoir chers amis, effectivement depuis plusieurs mois j'interviens pour vous parler des actions de l'Ordre de Malte-France et notamment dans les Pyrénées-Atlantiques où nous avons trois activités principales. Nous faisons des maraudes sur Biarritz et Bidart, trois fois par semaine. Nous avons une activité de santé, puisque tous les lundis, nous recevons pour des soins dentaires et deux après-midi par semaine pour des soins de médecine générale. Aujourd'hui, c'est dans deux sites un peu éloignés. On va tout réunir et on va aussi ouvrir une troisième activité de santé, l'ophtalmologie. Nous avons par ailleurs également une équipe de secouristes. Voilà. Mais d'où vient Malte-France ? À vrai dire, le vrai nom de Malte-France, et de Malte tout simplement, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Alors, je vais vous, dans un contexte un peu particulier, donc l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem a été créé en 1045. Vous voyez, c'est très ancien. Le contexte est un peu le suivant. Bon, d'abord, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, c'était la naissance de Jésus-Christ. Quatre siècles plus tard, l'Empire romain, dont appartenait Jérusalem, est devenu chrétien, voire même catholique plus précisément. Au 7e siècle vient de se créer le croissant fertile, c'est-à-dire c'était les Arabes qui se sont réunis, la Palestine, la Syrie et même Jérusalem, pour contrebalancer cette partie chrétienne. Mais il y avait un accord sur Jérusalem entre Charlemagne et le calife Hatoum al-Rachid, et tout se passait à peu près bien, sauf que le temps passe et en 1009, un nouveau calife, le calife Al-Hakim, a conquis Jérusalem et a détruit le Saint-Sépulcre. Et donc à partir de là, beaucoup de pèlerins se sont dirigés vers Jérusalem. Ils se sont dirigés d'abord pour reconstruire le Saint-Sépulcre et puis, venir prier et défendre ce fameux Saint-Sépulcre. Il venait effectivement pour protéger le tombeau du Christ. Et en 1045, parce qu'ils venaient dans un état, en très mauvais état, ils arrivaient parce qu'ils venaient notamment de France en bateau, pour les plus riches, mais également les plus pauvres venaient à pied ou à cheval. Ils arrivèrent affamés, ils étaient dépenaillés, ils étaient malades, ils étaient sales, enfin. Et donc quelques riches marchands de Venise, du sud de la France, notamment de Marseille, et de Grèce, ont créé un centre d'accueil. Ce centre d'accueil était parmi eux, il y avait un moine bénédictin, c'est un ermite de Saint-Augustin qu'on appelait Gérard, et plus particulièrement, il se fait remarquer, et c'est le début des activités de l'Ordre de Malte. Voilà. Alors il faut savoir que dans cette activité, donc il les accueillait, il les soignait, il les nourrissait, il les vêtait. Et 50 ans plus tard, arrivèrent la première croisade, la conquête de Jérusalem, et effectivement les croisés, prirent possession de Jérusalem, et le premier patron de Jérusalem, c'était Geoffroy de Bouillon. Et ils se sont un peu rapprochés entre l'ordre de Malte et les croisés, tout simplement. Mais en l'an 1113, le pape Pascal II a reconnu l'autonomie de l'hospitalité et a été la création de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Donc les chrétiens, les juifs, les arabes étaient recueillis, soignés, nourris, vêtus, sauf les chrétiens devaient faire quelque chose en plus, ils devaient se confesser et de façon anecdotique, écrire son testament. Alors après, les affaires se compliquèrent un peu, les Arabes ont jeté l'ordre de Malte, parce que c'était déjà la fin, des croisades, et nous ont un peu poussé à Saint-Jean d'Acre, qui est une île un peu à proximité quand même de Jérusalem. Et là, nous avons créé un hospice à nouveau, puisque c'était, l'activité première de l'ordre de Malte. Et ça se passait plutôt bien. Il y avait, comment dirais-je, toujours un grand dispensaire, il y avait une église, et il y avait, enfin c'était même un grand truc, puisqu'il y avait 11 salles, il y avait un millier de lits, il y avait même des lits qui étaient accueillis uniquement, ou réservés uniquement pour les femmes, il y avait même des nourrices, il y avait des sages-femmes, et c'est à cet endroit qu'on construit le comment dirais-je, un fort très important qui s'appelle le Krak, qui existe encore. Et puis, en 1291, les Arabes ont repris Saint-Jean d'Acre et nous ont poussés jusqu'à Rhodes. Alors à Rhodes, l'or de Malte était déjà présent puisqu'il y avait des commanderies et ça se passait plutôt bien. Mais évidemment, et puis il y avait des murs de protection qui faisaient 4 mètres de large, et il y avait une enceinte de 4 km. Enfin, c'était quelque chose de très important. Le temps passèrent, et puis en 1522, les armées ottomanes, ont repris Rhodes. C'était sous l'empire de Soliman le Magnifique. Il avait 2000 hommes, ce qui était important, et il n'y avait plus que 160 chevaliers de l'ordre. Et puis est arrivé, ce qui devait arriver, les hospitaliers ont été évacués de Rhodes, et c'était à l'époque où l'Espagne, était assez puissante et voulait conserver une espèce de puissance dans le sud-est de la Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée, et ont confié à l'ordre l'île de Malte. Alors l'île de Malte, c'était une île complètement déserte, volcanique, et tout était à construire. Donc l'empereur, Charles Quint, de la famille des Habsbourg, c'était le prince de Habsbourg, a donné cette île à Jean de la Valette, et Jean de la Valette a commencé à construire la ville qui existe aujourd'hui. Du reste, la capitale de l'île de Malte s'appelle La Valette. Donc il s'est créé un hôpital extrêmement moderne, un peu plus petit que celui de Rhodes, puisqu'il n'y avait que 600 lits, mais c'était avec toujours un hôpital pour femmes, et on pratiquait la chirurgie, l'opération de la cataracte, il y avait un quartier pour les contagieux, il y avait un balcon pour les convalescents, il y avait même un quartier, un lazaret, c'est-à-dire un espèce d'endroit pour la quarantaine. On pratiquait, de façon anecdotique, des anesthésies. Alors c'était un chiffon d'opium, ou alors mieux que ça, c'était le chapeau, le homme. Alors le homme, c'était particulier, on vous mettait un casque en fer sur la tête et on vous donnait un grand coup de marteau sur le casque, et là vous étiez un peu anesthésié. Mais c'était un peu anecdotique. Et puis il s'est passé, assez rapidement, une trentaine d'années après, la grande bataille qui est la bataille de l'Estampe, où il y avait d'un côté l'Empire ottoman, et les régences d'Alger et de Tunis, et de l'autre côté il y avait les hospitaliers, avec effectivement il y avait un peu l'Espagne, il y avait Jeune, il y avait Venise, il y avait la Savoie, etc. Et c'était commandé par Juan d'Autriche, qui était aussi un Habsbourg. Il y avait d'un côté 200 navires, ça c'était du côté, des chevaliers de Malte. Il y avait quand même 200 navires d'un côté, mais 328 du côté ottoman. Il y avait du côté des chevaliers de Malte 200, il y en avait à peu près pareil de l'autre côté. Enfin, les équipes étaient à peu près équilibrées, mais à l'arrivée, il y a eu du côté des forces, des hospitaliers, il y a eu 7000 morts, ce qui est considérable, mais de l'autre côté, il y en avait 20 000. Et finalement, la chrétienté a gagné à ce moment-là, et sur l'île de Malte, on a été préservé jusqu'en 1798, où c'est la Bonaparte qui est venu conquérir, il a pris l'île de Malte aux chevaliers et leur a piqué, les bateaux, parce que la flotte maritime des chevaliers de Malte était la plus puissante de la Méditerranée, mais comme il y avait un accord de non-agression avec les pays chrétiens, voilà ce qui s'est passé. Il faut savoir, j'évoquais que la marine nationale, la marine de l'ordre de Malte était extrêmement puissante, puisque Louis XIII a demandé effectivement aux chevaliers de construire, la navigation royale. Enfin, et aujourd'hui encore, il y a encore des traces entre la marine nationale et l'ordre de Malte. Il y a un rapprochement qui est tout à fait évident. Chaque année, à Versailles, lors des grandes manifestations, il y a toujours des matelots garde-à-vous pour accompagner les chevaliers de l'ordre de Malte. Voilà ce que je voulais dire, et c'est tout à fait intéressant, et je saute à l'actualité, puisque le 17 mai de cette année, à Saint-Jean-de-Luz, nous allons fêter le 20e anniversaire de la béatification de Charles d'Autriche, qui est le dernier empereur d'Autriche. Charles d'Autriche est de la famille de Habsbourg, et c'est en reconnaissance de la proximité entre les Habsbourg et l'ordre de Malte que la délégation du Pays Basque et de l'ordre de Malte organise cette grande messe présidée par Monseigneur Hayet et sera suivie donc par une conférence sur Charles d'Autriche par son petit-fils l'archiduc Carl Philippe, mais également il y aura une conférence sur l'impératrice Zita qui a vécu longtemps dans le Pays Basque, plus précisément à Lecaitio, mais elle venait souvent chez sa tante Marie-Christina à Saint-Sébastien. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.
Un grand merci à vous, Alain de Faujac. Rappelons donc la date du 20e anniversaire du bienheureux Charles d'Autriche. C'est le vendredi 17 mai à partir de 18h en l'église de Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup pour nous avoir brossé donc l'histoire de l'ordre de Malte, une page d'histoire millénaire. Or, rassurez-moi, les malades que vous accueillez au dispensaire Saint-Jean rue de Luc à Bayonne, vous leur donnez pas un coup sur le homme.
Non, aujourd'hui c'est plus sobre, mais figurez-vous, et ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais que ce soit à Rhodes ou que ce soit à La Valette, c'est-à-dire à Malte, les repas étaient servis dans des assiettes en argent. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est plutôt des assiettes en carton. Vous voyez, mais pour d'un point de vue hygiène, l'argent est nettement plus profitable que le bois qui était utilisé à l'époque.
Merci beaucoup, Alain de Faujac.
L'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs, les malades. www.ordredemaltefrance.org